Les podcasts de l'Institut de France. L'envie de savoir. L'entretien de la semaine.
Dans un monde saturé d'images, où l'on scrolle plus vite que l'on ne regarde vraiment, comment réapprendre à voir ? À voir vraiment, à distinguer l'image de l'illusion ou bien percevoir le point de détail qui fait toute la beauté d'une photo. Aujourd'hui, dans l'envie de savoir, nous parlons éducation à l'image, de regard critique, d'attention et bien sûr de photographie. Et pour en parler, un invité qui connaît les images sous toutes leurs coutures, Éric Carcenti. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors vous êtes journaliste, observateur des mutations du médium. Vous avez dirigé pendant 10 ans Fish Eye, qui est l'un des magazines les plus attentifs aux nouvelles écritures photographiques. Et puis aujourd'hui, vous êtes correspondant de l'Académie des Beaux-Arts. Oui. Alors, avec vous aujourd'hui, nous allons revenir sur ce qui fait la force d'une image, mais aussi ses pièges. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio à l'Institut de France. Pour commencer, quelques mots d'abord sur votre parcours. Éric Carcenti, vous avez été l'un des tout premiers élèves de l'école de la photographie d'Arles. Oui. Arles, qui est la ville française de la photographie. Vous en êtes sorti en 85. Qu'est-ce qui, à l'époque, accrocher le regard du jeune photographe que vous étiez? Quels ont été les sujets, les clichés qui ont composé vos premiers travaux là-bas?
Il faudrait remonter un peu en arrière. Alors c'est vrai que j'ai découvert la photographie de manière bizarre, un peu par la technique. Et puis, je me suis intéressé un peu aux livres. J'ai découvert l'existence des rencontres d'Arles et j'y suis allé pour faire un stage avec Gilles Morat, qui était à l'époque rédacteur en chef des Cahiers de la photographie. C'était pour moi super, c'était pour moi une vraie découverte. Et cette année-là, cet été-là, 82, ils ont annoncé la création de l'école de la photo. Et donc moi, j'étais à un moment de mon parcours où je me cherchais un petit peu, je ne savais pas trop où aller. Et donc ça a un peu focalisé tous mes intérêts. Donc je suis allé à Arles. Et donc j'étais dans la première promo, comme vous le soulignez. Et là, c'est vrai que pour moi, la photographie est devenue un peu une boussole. C'est-à-dire que je regardais tout par le prisme de la photo. Je trouvais que c'était quand même un support, un média qui permettait de regarder le monde et d'en avoir une lecture critique ou poétique. Et qu'en fait, on pouvait filtrer beaucoup de choses à travers la photo. Donc, c'était un peu cette curiosité-là.
Et après, vous vous êtes tourné, non pas dans la photographie, vous êtes devenu photographe, mais vous avez préféré vous tourner vers le journalisme. Vous avez écrit pour plusieurs revues spécialisées. On peut citer Image Magazine, Zmala.
Oui,
curieux.
Alors quand je suis sorti de l'école d'Arles, j'ai d'abord travaillé avec Jean-Luc Monterosso à Paris Audiovisuel, qui a créé le mois de la photo à Paris. Donc j'ai travaillé 4 ans avec l'équipe de Paris Audiovisuel. C'était quand même un peu un prolongement de ma formation, parce qu'on était dans le monde de la culture, mais on était vraiment dans l'événementiel. On a créé. Moi, j'ai participé à ma petite échelle à faire exister cet événement considérable, parce qu'effectivement, autant Arles, c'est quand même la capitale de la photo mondiale, mais le mois de la photo à Paris est devenu un événement majeur qui a été copié dans plein d'endroits. Donc c'était super pour moi de travailler là. Donc j'ai bossé 4 ans et ensuite, j'ai rejoint des gens qui étaient à l'école avec moi, à l'école de la photo, pour diriger une agence de photographes de presse. Donc j'étais dans la presse, mais côté production. C'est-à-dire en fait, on envoyait des photographes en reportage, on éditait les images et on allait les proposer au magazine. Donc ça a été une activité assez longue. Et donc du côté de l'image, du côté de l'editing, l'editing c'est la construction d'une histoire à partir d'images. Donc en fait, on met toutes les images à plat et on fait un montage, hein, si on voulait faire un parallèle avec le cinéma. Ça a été une activité qui m'a approché du journalisme, mais pas par l'écrit, vraiment par l'image. Enfin, les seuls écrits que je pouvais faire, c'était des synopsis ou des choses comme ça. Et c'est ensuite, quand cette aventure s'est terminée, que j'ai fait une formation en presse écrite. Et effectivement, là, je rejoins ce que vous me disiez. Donc, Image Magazine, voilà, ça se met là. Enfin, là, c'était aussi de belles aventures.
Mais un mot pour revenir dans ce cas sur l'editing. Oui. C'est Cartier-Bresson qui, dans la préface de son livre Image à la sauvette, qui évoquait cette angoisse du photographe découvrant ses clichés publiés dans des magazines. Oui. Des clichés qui sont parfois recadrés, amputés, déformés. Il y a parfois un écart entre l'intention du photographe et puis le résultat final sur le magazine. Voilà, faut trouver un juste équilibre entre le regard de l'auteur, celui du magazine, le média qui diffuse.
Alors, Pour revenir sur un petit point d'histoire, puisque vous parlez de Cartier-Bresson, qui était un des fondateurs de la coopérative, l'agence Magnum, en 1947. Au début, dans les images qu'ils diffusaient à la presse, ils avaient quand même une volonté de maîtriser le sens de leurs images, autant pour la légende que pour le recadrage, comme vous soulignez. Et donc, il y avait une espèce de bord noir qui entourait les images et qui devait être publié tel quel, pour dire que c'était ce que le photographe avait vu, ce qu'il avait choisi, et qu'il ne fallait pas le recadrer, pas le retoucher, comme un journaliste qui demanderait de ne pas réécrire son papier. Donc ça s'est affirmé assez vite, en tout cas dans Cartier-Bresson. Et c'est vrai que pour avoir travaillé des deux côtés la barrière, je pense aux journaux, aux magazines en particulier, d'ailleurs j'ai amené des images et je les voyais publier après, et puis j'ai travaillé dans les magazines et j'ai vu arriver des images et je me suis occupé de leur publication. Il peut y avoir des écarts. Il y a toute une chaîne de fabrication avec différents filtres, qu'ils soient éditoriaux, presse écrite, maquette, qui font que on va choisir telle image plutôt qu'une autre. On voit des magazines qui retournent les images gauche-droite parce que c'est plus intéressant graphiquement, donc c'est quand même un espèce de contresens absolu. Donc il y a toute une logistique de fabrication du sens avec l'image qui est au cœur du magazine. Et ça, c'est vraiment, puisque le sujet, c'est un peu l'éducation des images et comment les images parlent, le contexte dans lequel on voit les images est quand même quelque chose de super important. Et un magazine, c'est une manière de raconter quelque chose sur le monde, qu'il soit dans l'actualité ou dans la culture ou dans plein de domaines différents. Et la manière dont on articule la photographie avec les textes, avec les éléments de maquette, c'est vraiment toute une mécanique assez fine qui est assez passionnante. Enfin, moi, j'ai fait des études de secrétaire de rédaction, qui est un métier pas très connu, mais qui est en fait un peu à l'interface entre la photographie, le service photo, le service rédaction et la maquette, et qui est un peu chef d'orchestre, c'est un peu prétentieux, mais en tout cas, qui est un peu dans la coordination de ça. Et c'est passionnant parce qu'on voit les choses se faire à ce moment-là. Donc, c'est encore un travail de montage.
Donc, vous venez de le dire, vous avez beaucoup écrit autour de la photographie. On a cité plusieurs revues spécialisées dans la photographie. Puis, il y a eu Fish Eye. Vous avez été pendant 10 ans rédacteur en chef de ce journal jusqu'à l'année dernière, en 2024. Fish Eye, c'est un magazine qui compte dans le paysage de la photographie contemporaine. Comment il se positionne par rapport à d'autres revue photographique, quelle est sa philosophie éditoriale?
Il était créé en 2013 par Benoît Baume et son équipe. Moi, je l'ai rejoint en 2014. Et Benoît, avec son équipe, avait pris conscience d'une chose, c'est que la photographie avait bougé, avait changé, entre autres l'apparition du numérique, particulièrement avec les réseaux sociaux et les pratiques et des nouvelles générations. Et donc, une nouvelle manière de faire, de concevoir, de diffuser la photo. Et c'est un homme de presse, Benoît Baume, et il se rendait compte que la presse photo n'avait pas enregistré ce changement. Était resté un peu classique, un peu traditionnel. Et donc, il a décidé que le média qu'il créait, Fish Eye, allait pouvoir essayer de rendre compte de cette mutation. Donc ça, c'est le début du projet, en tout cas pendant les 10 ans où j'y ai travaillé, avec les équipes, avec les journalistes, avec les maquettistes. C'est vraiment un travail collectif. Le photographe pourra revenir sur le point du collectif auquel je suis assez attaché. C'était vraiment essayer de rendre compte de ce qui se passe dans la photographie aujourd'hui, en étant attentif à toutes les écritures. Et donc le titre même du magazine, Fish Eye, qui est un clin d'œil à l'objectif grand angulaire, c'est un peu comme les Judas qu'on voit sur les portes, où ça voit très large, c'est l'idée d'être ouvert à toutes les écritures photographiques, c'est-à-dire aussi bien le reportage traditionnel, engagé, que la photographie plus plasticienne ou artistique ou de recherche, différents types d'approches, parce que chacune de ces photographies, quand elle est vraiment investi avec engagement, nous raconte quelque chose du monde avec un regard d'auteur ou d'autrice. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est ce qu'on développe. Alors, j'ai quitté, je reste encore en relation, je continue à écrire, et puis je suis proche, c'est un peu une deuxième famille. Depuis, la société s'est pas mal développée, il y a un site internet, il y a des petits films aussi qui sont diffusés. Donc, il y a vraiment, avec toujours cette idée de défendre la politique des auteurs.
Alors avec cette double casquette de photographe et d'analyste commentateur d'images, vous allez nous aider à mieux lire les images d'aujourd'hui. Il y a quelques initiatives aujourd'hui d'éducation aux images pour apprendre à les voir, à les décrypter correctement. Je pense par exemple à Paris, à un espace comme le Bal. Il y a l'émission Le Dessous des Images, mais à la fin des fins, on manque quand même cruellement de cette éducation aux images. Déjà à l'école, à part dans les cours d'art plastique et dans les cours d'histoire-géographie,
il n'y en a pas. Ouais. C'est un vrai problème que, alors vous citiez le Bal et d'autres structures, moi je pense aussi à le Graff à Carcassonne qui fait des choses vers les écoles. Il y a surtout les gens du réseau Diagonal, il faut leur rendre hommage, il y a une trentaine de structures dans l'Hexagone, plus une en Guyane maintenant, où ils ont développé un programme qui s'appelle Entre les images et qui travaille avec les classes, avec les collèges, avec les écoles, avec les maternelles. Et il y a un besoin criant d'éducation à l'image parce que apprendre à les décrypter, apprendre à voir comment elles fonctionnent, à rentrer dans leur mécanique, à regarder qui émet, pourquoi, les modes de diffusion. Toute cette réflexion-là n'est absolument pas présente dans l'éducation nationale. Et beaucoup de gens, en tout cas je pense aux gens du réseau Diagonal dont je suis assez proche et que je trouve qu'ils font un excellent boulot, essayent d'appuyer pour que l'éducation nationale s'empare de cette question qui fait cruellement défaut.
Plus que jamais, nous avons besoin d'apprendre à regarder les images avec attention, discernement. Pourquoi je dis plus que jamais ? Je fais référence à l'intelligence artificielle qui passe aussi par là. Alors bien sûr, il y a toujours eu des photos retouchées dans l'histoire, mais là, on a quand même passé un nouveau cap.
Oui.
On peut aujourd'hui générer des images à partir de rien. Comment enseigner ?
Enfin, pas tout à fait à partir de rien, quand même.
À partir de prompts.
De réservoirs, oui.
De réservoirs d'images de photographes.
Oui,
et bien sûr, et ça perturbe aussi énormément l'économie de la photographie. Comment est-ce qu'on peut enseigner l'authenticité, la vérification des images ? Est-ce qu'on peut l'enseigner ?
Alors, on peut apprendre à développer un esprit critique, à ne pas être prisonnier de cette idée comme quoi la photographie, c'est la réalité. On a beaucoup pensé, et moi-même, j'ai beaucoup été formé à ça, parce que l'image est une empreinte du réel, elle est frottée de réel, enfin, tout un langage qui est juste, hein, en tout cas au moins au début de la production des images, qui a un rapport à la réalité qui est très différent des autres modes de représentation. Et donc, qui a un capital de régime de vérité. Quoi. C'est vrai, on l'a vu en photo, c'est vrai, je l'ai vu à la télé, c'est vrai. Et c'est quelque chose qui conditionne les esprits depuis pas mal de temps. Mais l'image n'est qu'une représentation. Quand Magritte fait « Ceci n'est pas une pipe », il nous force à dire que, en fait, c'est une représentation avec toute la partialité qu'elle suppose. Et donc, il y a un vrai travail à faire pour comprendre que les images ne sont pas de la réalité. Je sais que je me rappelle une expérience. C'est un photographe qui s'appelle Joan Foncuberta, qui est espagnol, qui est donc artiste, qui est aussi enseignant, qui est un personnage assez fabuleux et qui fabrique des fictions, mais des fictions un peu subtiles, on se laisse prendre un peu au jeu. D'ailleurs, il y a quelques images à lui qui sont présentes aujourd'hui à l'exposition Le Monde selon l'IA, qui est en ce moment au Jeu de Pommes, qui est vraiment une exposition assez forte sur ce sujet. Et donc, Joan Foncuberta avait fait une photo où il y avait une espèce d'animal bizarre entre le singe et la chèvre, avec un faux savant qui le regardait. Et donc, cette image avait été présentée à des enfants et en disant, ben voilà. Et les enfants y croyaient très fort. Et à la fin de la visite, je crois que c'est le Graff qui avait organisé cette expérience, ils avaient fait un espèce de sas de décontamination où ils avaient expliqué qu'en fait, tout ça, c'était du bidon. Et donc, ils avaient été un peu désarçonnés, qui étaient en colère parce qu'ils avaient cru à quelque chose et on les avait comme ça un peu douchés. Et donc, c'est aussi une manière, c'est un peu ludique, un peu marrant, mais de développer un esprit critique. Il faut toujours s'interroger sur la production de l'image. Qu'est-ce qu'il y a dans l'image ? Comment elle est faite ? Comment elle est construite ? Et son mode de diffusion.
Là, c'est ce que j'allais vous demander. Quelles questions on devrait se poser face à une photographie ? À quoi faut-il être particulièrement attentif, vigilant ? Est-ce qu'il y a une liste de questions qu'il faut se poser ?
Ah oui, c'est difficile. Enfin, mais c'est effectivement la question du contexte. Il faut savoir qui sont les auteurs, pourquoi ça a été fait, comment c'est construit, comment c'est fait, qui diffuse. Enfin, il y a toute une chaîne d'actions et de responsabilités qui est à l'origine de cette image. Je pense à l'AFP qui a mis au point un logiciel de vérification des images et ça devient de plus en plus important. Et je pense qu'aujourd'hui, par rapport à ce dont on parlait sur le régime de vérité des images qui est un peu problématique, surtout par rapport à l'image d'actualité, l'image de création, la question ne se pose pas dans les mêmes termes, mais dans l'image d'actualité, je pense que de plus en plus, il va falloir passer par des authentifications ou passer par des gens qui vérifient l'actualité, qui vérifient la véracité des images.
Ça devient un métier à part entière.
Oui, mais il y a des fact-checkers à l'AFP, je sais, enfin je pense à d'autres endroits il doit y en avoir, mais je sais que l'AFP, c'est des gens que je connais un petit peu, ils regardent ça avec beaucoup d'attention, y compris avec leurs photographes. Et il y a eu une histoire, il y a quelques années, je ne me rappelle plus le nom du photographe, mais qui avait, pour rendre son image plus forte, entre guillemets, rajouté quelques nuages de fumée. C'est des nuages qui existaient déjà, mais il les a dupliqués. Et en fait, ça s'est su, et donc l'image n'a évidemment pas été diffusée, et le photographe renvoyé. Bon, c'est un exemple, tout n'est pas toujours aussi violent, mais en tout cas, il est important que les images soient vérifiées.
Et en fin de compte, ces magazines-là ou ces agences-là, comme l'AFP, deviennent en quelque sorte des refuges où on peut encore faire confiance.
Oui, c'est des garants. C'est comme quand on va lire dans des grands quotidiens où l'information est vérifiée, où il y a une vraie indépendance, on a un peu plus confiance dans l'information. Après, c'est toujours bien de croiser l'information avec d'autres supports, ça c'est toujours vrai. Mais oui, c'est aussi une mise en garde par rapport aux réseaux sociaux, où il peut y avoir le meilleur comme le pire, mais beaucoup de pire quand même. Et donc, faut pas prendre la photographie pour argent comptant, jamais.
C'est la philosophe Laurence de Villars qui, dans son dernier livre, La splendeur du monde, explique qu'aujourd'hui, on ne sait plus voir les choses. On passe à côté de la splendeur, de cette splendeur du monde, justement, qu'il nous faut réapprendre à voir les choses. Quelle distinction vous faites entre regarder et voir en photographie ?
Regarder, ça suppose une attention plus forte. Voir, c'est un peu du domaine de la perception. Quand on regarde, on met un focus, on met une attention. On regarde avec plus de précision. On voit le temps qu'il fait, mais quand on veut décrire ce qui se passe ou quand on veut faire une image, ben on devient plus attentif à la lumière, on devient plus attentif aux formes des choses. Ce qui est intéressant avec la pratique de la photographie, c'est que c'est une leçon d'attention au monde, manière de le rendre, d'essayer de faire passer une émotion. Ça suppose quand même... après, on rentre un petit peu dans des cuisines quel filtre, quelle pellicule, quelle technique, un peu comme quelqu'un qui fait de la peinture qui va se demander s'il prend un fusain ou de la peinture à l'huile, ou un écrivain qui va le rendre en forme poétique ou en forme narrative. Il y a des outils comme ça qui vont affiner, affûter un peu le regard, mais ça permet de regarder le monde avec plus d'attention. En tout cas, moi, je l'ai un peu vécu comme ça.
Ce que vous dites, c'est qu'il faut pratiquer aussi. Il ne suffit pas d'apprendre des choses sur l'histoire de la photographie.
Mais disons que quand on pratique, on comprend mieux. C'est-à-dire que quand on pratique la photo, ça c'était un peu la leçon à l'école, parce qu'on pratiquait beaucoup. Quand on va voir une exposition, on comprend le regard du photographe. Alors, vous m'avez présenté tout à l'heure comme photographe, c'est un peu abusif. Je ne suis pas photographe, j'ai pratiqué la photo, mais je ne suis pas photographe. Mais quand on connaît un peu la photo de l'intérieur, entre guillemets, ben, on voit comment le photographe se positionne. On voit son point de vue, on voit ses choix, on comprend qu'est-ce qu'il a voulu faire, comment il a fait. On rentre un peu dans la mécanique, hein, on soulève un peu le capot, comme on dit. Un peu comme quand on fait des ateliers d'écriture, où on apprend un petit peu des choses sur la technique. Et quand on lit après avoir fait des ateliers d'écriture, on a un regard beaucoup plus... pertinent, on rentre un peu plus, on voit un peu mieux comment c'est construit. Ou comme quand on relit un livre plusieurs fois, on voit des choses qu'on n'a pas vues. Mais là, on rentre un petit peu dans la mécanique. Et ça, c'est assez intéressant parce que il y a aussi cette idée dans l'idée de l'éducation aux images, c'est de fabriquer des faux. Fabriquer des faux, c'est intéressant parce qu'on voit comment ça marche. Et on voit comment on manipule du sens et on voit comment on est manipulé, comment on peut être manipulé. Et donc, tout ce qui développe l'esprit critique est quelque chose de fondamental qui, ça pourrait être une matière en soi, l'esprit critique à l'éducation nationale, ce serait quand même super.
Alors, pendant vos années à diriger Fisheye, vous vous êtes intéressé aux artistes émergents et aux écritures singulières. Comment ces nouvelles approches photographiques peuvent-elles enrichir notre façon de lire les images?
Alors, ça, c'est un peu la... ce qui fait tout l'intérêt des artistes, c'est qu'ils vont regarder dans d'autres modes de représentation. En fait, ce qui est, moi, il me semble important, c'est la question de la forme. C'est-à-dire, en fait... On peut toujours peindre comme les impressionnistes, on peut toujours essayer de photographier comme Henri Cartier-Bresson, qui est un grand monsieur de la photographie. Mais on a parfois envie d'essayer d'autres choses. On essaye d'autres choses aussi parce que, d'une certaine manière, j'allais dire le regard s'use, c'est un peu violent dit comme ça, mais je pense aux images d'actualité. Je pense à la manière de rendre, on va parler par exemple des féminicides. Donc, moi, je connaissais des photographes qui travaillaient en mode reportage, en noir et blanc, qui suivaient les équipes de police et qui faisaient des images très fortes, ou des gens qui vont dans les prisons, qui font des images très fortes. Mais à force de les voir, d'une certaine manière, elles glissent un peu, enfin notre regard glisse un peu dessus, on ne les voit plus.
Et du coup, s'habitue trop.
On s'habitue un peu parce qu'on est bombardé d'images et puis on passe un peu à côté. Et je pense au travail d'une photographe qui s'appelle Camille Garbi qui était aussi sensibilisée à cette question-là et qui, à un moment donné, a développé un travail qui s'appelle Preuve d'amour, dans lequel elle a travaillé avec une association qui recensait tous les féminicides en France. Et elle a réalisé une série d'images où on voit des objets photographiés un peu comme des natures mortes. Il y a un canif, un pistolet, un fil électrique, un cutter... Et donc, une image comme ça, carrée, avec un fond uni. Et à côté, il y a un prénom, une date, la cause du décès, le lieu. Et donc, une manière très télégraphique de raconter un fait divers. Et avec l'image à côté, qui est l'objet qui a servi. L'objet, à un moment donné, il y a une casserole. Une casserole, c'est pas... Et en fait, il y avait un bonhomme qui avait tué sa femme...
Avec une casserole.
Avec une casserole. Alors, c'est pas cette casserole-là, mais c'est une casserole.
En tout cas, c'est l'arme, c'était l'arme donc, qui, en fait, c'était qui est représentée. Ouais.
Et donc, ce sujet a été très fort parce qu'en fait, c'est dans la tête du spectateur que l'histoire se construit. Avec ces quelques mots de légende et cette image, on prend conscience de la chose. Et c'est un exemple, évidemment. Il y a plein d'autres manières de faire, mais c'est une manière de faire un pas de côté pour passer l'œil au papier de verre et essayer de voir autrement, quoi.
Et d'ailleurs, en 2024 ou en 2025, il y a des images ou des photographies qui vous ont particulièrement marqué ou qui seraient passées sous les radars, selon vous?
Ah, ça, c'est une question au piège. Il y en a beaucoup, alors... J'ai envie de dire, on les trouve souvent sur le site de Fisheye et dans le magazine. C'est un peu facile comme réponse.
Mais on mettra le lien, évidemment,
mais
du magazine.
Oui. Je vous parlais tout à l'heure de l'exposition qu'il y a au musée du Jeu de Pommes sur l'IA.
Sur l'IA,
il y a quand même des choses très fortes qui sont là. Oui. Après, il y a plein de jeunes artistes qui essayent des choses. Je pense à une photographe comme Laure Winans qui fait un très beau boulot. Alice Palot, qui a un travail sur les algues... toxique qui est en Bretagne, qui fait un travail qui est un peu à mi-chemin entre un côté documentaire, un côté plastique et un côté militant. Et plastiquement, c'est très beau. Donc il y a des gens comme ça qui font des choses, qui sont une jeune génération qui essaient des trucs et qui nous rafraîchissent un peu le regard et qui nous permettent de découvrir le monde.
Alors j'en reviens à vous, Éric Carcenti. Il y a un peu plus d'un an, vous avez été élu correspondant de l'Académie des Beaux-Arts. Donc cette Académie des Beaux-Arts, elle est dirigée par le compositeur Laurent Petit-Girard. Elle est composée d'environ 70 membres. Quelle différence fait-on entre un membre et un correspondant au sein de cette Académie?
Alors les membres, c'est des artistes, c'est des créateurs. Et les correspondants, c'est principalement des gens de métier. Je travaille avec les autres correspondants de l'Académie des Beaux-Arts, en tout cas pour la section photo, qui sont Jean-Luc Monterosso, Sylvie Hugues et Marie Robert. Et donc, on fait une équipe, un peu les mousquetaires, et on travaille avec les académiciens pour le bicentenaire et pour l'ensemble des projets. Donc, en fait, on réunit nos carnets d'adresses et nos compétences pour essayer de mener à bien quelques missions.
Qui sont différentes de celles des membres?
Non, on est sur les mêmes dossiers.
C'est un travail complémentaire.
Oui, on est sur les mêmes dossiers.
Et vous participez également aux séances de l'Académie du mercredi?
Tous les mercredis, oui.
Alors, on fêtera en 2026 le bicentenaire de la photographie.
Oui.
2026-2027 ?
C'est ça, 2026-2027. De septembre 2026 à septembre 2027, c'est ce qui sera prévu.
Alors, l'Académie des Beaux-Arts réfléchit à une programmation pour l'événement. Est-ce que vous en savez plus ?
Oui, alors, on est en train de le préparer avec une commission, avec les membres et les correspondants, et aussi avec les gens de l'Académie des sciences. On essaye de monter un programme avec deux, voire trois expositions, un colloque, qui permettent de mettre en valeur la singularité de l'Institut et des différentes académies. Donc, il y aura probablement une exposition à la salle Comtesse de Caen sur les collections, mais sur lesquelles on va faire intervenir l'Académie des sciences et probablement d'autres académies. Mmh. Donc, parce que c'est ce qui fait vraiment la richesse de l'Institut, c'est ce croisement de compétences. Et puis, on va probablement aussi faire une exposition plus sur l'environnement, mais j'en dirai pas trop, sur la Galerie Vivienne qui va ouvrir à la rentrée. Donc ça aussi, c'est un joli projet. Il y a aussi un autre projet qui va se passer dans la bibliothèque, mais j'en dirai pas plus parce qu'on est encore en train de le finaliser. Et puis, très certainement, un colloque.
Donc, programmation complète
à venir bientôt. Oui, à venir bientôt. Parce qu'il y a pas mal de choses qui sont prévues par le ministère de la Culture et pas mal d'institutions. Donc, on est en relation avec eux. Mais on va quand même essayer de défendre les couleurs de l'Académie et de l'Institut.
Pour les Jeux, j'avais vu, vous aviez été commissaire d'une exposition.
Oui,
à l'hôtel
pour les Jeux Olympiques, oui, j'ai participé au commissariat de cette exposition qui était une belle aventure parce que on a rassemblé des photos de pas mal de sources, de l'AFP entre autres, mais aussi beaucoup de photographes, entre autres d'un photographe qui s'appelle Bobby, d'ailleurs dont on va publier un livre. Alors, je dis on parce que donc j'ai quitté Fisheye, mais j'ai du coup rejoint la maison d'édition Fisheye. Donc je suis maintenant responsable éditorial là-bas. Et donc on publie des livres. Donc effectivement, il y a une actualité qui arrive. Donc il y a plusieurs livres qui vont être publiés cette année, dont un livre de Bobby, qui est un photographe reporter qui est, on va dire, un touche-à-tout, comme souvent les reporters, c'est-à-dire il peut faire des manifestations, le Festival de Cannes, des portraits, des recherches personnelles. Et donc, on publie un livre qui rassemble un peu des images de ces différents registres-là, et aussi les Jeux Olympiques. Et donc, avec à chaque fois une grande pertinence, avec une grande liberté, une fraîcheur de regard qui est très forte. Et il est très, très suivi sur les réseaux. Et d'ailleurs, le financement participatif qui a été réalisé pour le livre a été un succès assez phénoménal. Donc ça va être un très beau livre. Et puis, il y a d'autres livres qui sont à venir aussi prochainement. Donc, on en parlera, je pense qu'Arles, on en parlera déjà un petit peu.
À partir de juillet prochain.
Oui.
Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Éric Carcenti, pour tous ces éclairages.
Les podcasts de l'Institut de France.